Bonjour, chers amis. Je me demandais ce matin, dans la semaine écoulée et encore bien avant, qu'est-ce que j'allais pouvoir dire, le message que j'allais vous apporter ce matin. Et au fond, dans l'introduction et particulièrement dans la présidence de notre frère Gino, nous parlons de cette espérance chrétienne qui nous a été donnée par le fait que Jésus nous a choisis, a fait de nous ses disciples, nous des pécheurs, qui ne méritons absolument rien, sinon que la condamnation, cela a été souligné tout à l'heure, nous qui avons été choisis, et il a fallu que pour nous être choisis, que pour pouvoir répondre à son appel, que pour pouvoir recevoir cet appel et cette vocation, d'abord que nous soyons pardonnés. Et le thème de ma prédication, de mon message ce matin, se situera sur le thème du pardon, le pardon de Dieu. C'est un thème des plus importants dans la Bible. Car sans pardon, il n'y a pas de salut possible. Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ, et il a fallu qu'il en paye le prix. Et en lisant, vous savez que j'aime beaucoup les psaumes, c'est un de mes livres préférés. J'ai toujours bien aimé les psaumes et en lisant, il y a deux semaines déjà à peu près, deux ou trois semaines, le psaume 32, j'ai été touché par l'exemple qui nous est donné par le roi David. David, dans le psaume 32, fait état des conséquences du non-pardon, ce que cela le rendait malheureux, physiquement, moralement, spirituellement. Dans ce psaume 32 que je vais d'ailleurs vous lire, il est important de le méditer et surtout d'en revenir les termes, d'en retenir les termes. Le psaume 32. Tout d'abord, il déclare que l'homme qui avoue ses transgressions, dont les transgressions sont remises, à qui le péché est pardonné, est un homme heureux. Et ce bonheur-là, d'avoir là le pardon de ses péchés, de savoir que l'on est pardonné par Dieu, est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il nous rend vraiment libres et heureux. Heureux l'homme, dit ce psaume, à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Car si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Le psaume 31 dit aussi ceci au verset 11, que j'aimerais vous lire également. Ma vie, c'est l'expérience de ce roi célèbre que fut David. Ma vie, à partir du verset 10, aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage et l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité. être réconcilié avec Dieu, savoir que l'on peut déposer à ses pieds son fardeau, savoir qu'il est là précisément et il attend notre adhésion pour pouvoir recevoir cette grâce immense, imméritée, parce qu'il faut le savoir, nous ne sommes pas méritants du pardon de Dieu. Il nous le donne, il nous l'offre. Nous sommes donc les heureux bénéficiaires d'une grâce absolument merveilleuse. Et chacun d'entre nous, nous pouvons savoir que la grâce de Dieu nous est donnée. Il n'y a aucune personne ici dans cette salle qui puisse s'en priver. Dieu pardonne les péchés les plus infâmes, les plus abjects, les plus horribles. L'histoire du roi David est bien éloquente à ce sujet. C'était un homme pourtant qui avait été choisi par Dieu, spécialement lui. Homme selon le cœur de Dieu, un homme extraordinaire, qui a fait des exploits tout à fait étonnants. David n'a-t-il pas combattu Goliath, un petit jeune homme, qui n'avait pas l'expérience des armes, mais qui, se trouvant devant cette armée philistine et de l'armée d'Israël, qui était là apeurée devant cet homme géant de 3 mètres, 3 mètres 50, qui défiait chaque jour l'armée d'Israël. Personne n'osait bouger. Ils étaient terrorisés, tétanisés par la puissance musculaire de cet homme, par sa grandeur. Et ce petit roi, ce petit jeune homme, aux yeux bleus, paraît-il, au teint blond, je ne sais pas s'il pouvait y avoir des blonds et des yeux bleus à l'époque là-bas, en Israël, ce serait plutôt le contraire, mais enfin voilà, c'est l'histoire, l'imagerie populaire qui en parle ainsi. En entendant ce géant, cet ennemi d'Israël, insulter l'armée de l'Éternel, défier l'armée de l'Éternel, le sang de David ne faisait qu'un tour, il bouillait intérieurement. Lui qui avait une foi, mais une foi extraordinaire, qui aimait le Seigneur de tout son cœur. Et quand il a entendu ce Philistin braver l'armée d'Israël, à ce point, il ne tenait plus. Il a demandé au roi Saül, il a dit « Moi j'irai, si personne ne va, moi je vais y aller et je vais tuer ce Philistin. » C'était toute une histoire, il faut lire dans le livre des rois cette merveilleuse histoire de livre de Samuel, de David et de Goliath. On en a fait des films d'ailleurs. Mais ça veut dire que cet homme-là a été choisi par Dieu pour accomplir des exploits extraordinaires. Il était enfant de Dieu, il était un homme de Dieu selon le cœur de Dieu, choisi par Dieu, comme nous le sommes d'ailleurs. Et pourtant, cet homme aussi, je dirais admirable sur le plan spirituel, sur le plan aussi de sa foi agissante, active, qu'a-t-il fait? Je ne vais pas m'alourdir sur cette dérive terrible qu'il a connue, mais simplement pour souligner que David, après avoir été vers Bathsheba, après avoir fait tuer son mari, Uri, l'un de ses soldats préférés, qu'a-t-il fait? Eh bien, il s'est endurci. Il a perdu la notion de la sainteté de Dieu, il a perdu en quelque sorte la conscience du mal qu'il avait commis. Il était tellement fou de cette femme et fou de ce qu'il a fait qu'il avait complètement perdu cette communion qu'il avait avec Dieu. Et il est resté ainsi pendant tout un temps. Et la Bible nous dit qu'il est resté là peut-être pendant quelques mois, une année, deux années, nous ne savons pas exactement. Jusqu'au jour où le prophète Nathan est allé le trouver pour lui faire remarquer ce qu'il avait fait. En lui racontant une histoire toute simple, toute banale, l'histoire de la brebis du pauvre. Vous vous souvenez? Cette histoire qui est anodine. Ces choses se passaient régulièrement là-bas. Le pouvoir des hommes faisait ce qu'il voulait avec les pauvres. Il les exploitait au fond. Et pourtant, quand David a su que cet homme, ce riche, avait été chercher la seule brebis d'un pauvre homme, il a répondu au prophète Nathan, « Cet homme mérite la mort. » Vous savez ce que le prophète a répondu? Cet homme, c'est toi. Alors, il s'est passé quelque chose chez lui, comme si les écailles lui étaient tombées des yeux, un peu comme ce que l'apôtre Saul de Tarse avait vécu lors de sa conversion. Il a été pris dans sa conscience. Un homme de son pouvoir pouvait, devant cette déclaration de Nathan, le prophète, il pouvait le faire tuer, il pouvait lui en vouloir, il pouvait avoir de la haine pour cet homme, mais non, pas du tout. Il a tellement été repris dans sa conscience que il s'est repenti. Il s'est réconcilié avec Dieu. Le non-pardon, chers amis, le non-pardon, lorsque nous résistons à Dieu, lorsque nous lui faisons face et que nous résistons malgré les assauts de l'Esprit Saint qui nous convainc de pécher, lorsque nous ne voulons pas céder au Seigneur, parce que nous préférons jouir des biens de ce monde ou simplement du péché que nous pratiquons, il est dit que le pardon, le non-pardon est à l'origine, écoutez bien, de nombreuses maladies. Et c'est vrai que la maladie peut être aussi la conséquence du péché. Ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, je m'empresse de le dire. Le docteur chrétien que vous avez peut-être entendu parler, pour moi personnellement, j'ai lu son livre lorsque j'ai été hospitalisé, Paul Tournier. La Bible parle de cet homme, de ce médecin qui a écrit de nombreux ouvrages tels que « Médecine de la personne » ou « Bible et médecine », pour ne citer que ces deux ouvrages, il en a écrit bien d'autres, témoignent de patients qui retrouvèrent la santé en recevant et en accordant le pardon, que ce soit une maladie nerveuse, la dépression, que ce soit l'arthrite, que ce soit des douleurs rhumatismales, que ce soit la névralgie, la dépression nerveuse, la tuberculose, ou bien d'autres maladies disparurent lorsque ces personnes expérimentèrent un profond et véritable pardon. En fin de compte, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est vrai que nous avons le pardon de Dieu. C'est vrai que nous l'avons. Nous avons été pardonnés de nos fautes. Le Seigneur a conclu un pacte avec nous et nous avons l'assurance que nous sommes pardonnés. Mais seulement ce que nous avons aussi à faire lorsque nous avons péché, quel que soit le mal que nous ayons pu faire, c'est de confesser notre péché au Seigneur, comme l'apôtre Jean le dit dans sa première épître, chapitre 1, verset 9, « Confessez vos péchés car il est fidèle et juste pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. » C'est important de ne pas rester avec un poids sur sa conscience. Et David restait, lui, avec ce poids sur sa conscience. Et les conséquences de cette attitude, nous le voyons ici, dans ce qui est écrit. « Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse. » Avoir perdu la paix de Dieu, c'est terriblement désolant et c'est terriblement éprouvant. Peut-être chacun d'entre nous, nous avons passé à un moment donné dans notre vie des moments où nous sommes refroidis ou simplement où nous nous sommes permis des choses que nous n'aurions pas dû. Nous avons peut-être fait le mal. Et cela ne nous est pas apparu d'un seul coup. Mais par la suite, nous avons réalisé et ressenti en nous que cette paix de Dieu disparaissait peu à peu. Que nous n'avions plus cette joie, cette confiance, cette proximité dans la prière avec lui. Cela se produit bien sûr lorsque le péché habite en nous et que nous ne le confessons pas. Quoique nous soyons pardonnés par Dieu, mais il y a quand même malgré tout de notre part une action à entreprendre, c'est celle de demander pardon lorsque nous avons fauté, quelles que soient les fautes que nous ayons commises. Dans certaines cliniques aux États-Unis, les médecins oncologues ont observé que les traitements de chimiothérapie ne marchaient pas chez certains malades qui cultivaient le non-pardon et la rancœur. Suite à ce constat, avant de commencer la chimiothérapie, ils demandent aux malades d'entreprendre une thérapie de réconciliation avec eux-mêmes pour les diverses blessures qu'ils ont subies. Ce témoignage et observation médicale concordent avec le texte de l'Écriture du psaume 32, bien sûr. Ces personnes ne peuvent pas pardonner parce qu'ils n'ont pas confessé leurs péchés. Et puis cela produit en eux toutes sortes de malaises qui peuvent entraîner la dépression, qui peuvent entraîner toutes sortes de maux dans le corps. Lorsque le prophète Ésaïe fait la description du Messie souffrant, il établit aussi un lien entre l'expiation du péché et la guérison. Il y a une relation de cause à effet entre l'expiation du péché et la guérison. La guérison physique passe au préalable par la guérison de l'âme. Je prends conscience du pardon de mes péchés au travers de l'expiation qui en est faite par le Messie. Cela me procure la paix et ensuite je suis guéri. Le miracle de la guérison est précédé toujours par le miracle par le pardon de nos péchés, comme nous le rappelle le récit de la guérison du paralytique. Vous rappelez dans cet évangile de Jean, cet homme paralytique qui ne pouvait plus se mouvoir fut porté par quatre amis, là, dans la présence de Jésus, c'est-à-dire que comme il voulait essayer de pénétrer dans la maison où il y avait une foule énorme, ils n'ont pas eu d'autre choix que de monter sur le toit, de découvrir le toit et de permettre à ce paralytique de descendre. Jésus, bien sûr, savait ce qui allait se passer. Il savait que ces paralytiques avaient un grand besoin, surtout celui d'être guéri. Et la première parole que Jésus a dit à ce paralytique, cela peut-être l'a désarçonné ou l'a déçu, lui, le paralytique, c'est « Mon enfant, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Non pas « Je vais te guérir » ou « Je te guéris », non, non, il a d'abord annoncé le pardon de ses péchés. Nous ne pouvons pas nous attendre à être guéris du Seigneur, de quelque maladie que ce soit ou de quelque situation particulière que nous vivons, si, tout d'abord, nous n'avons pas mis notre vie en règle avec le Seigneur, quelle que soit la situation qui se présente dans nos vies. Ensuite, il lui a dit, « Lève-toi et marche. » Ça, c'était l'histoire de ce paralytique. Étant réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, nous recevons son pardon. Le pardon de Dieu est un pardon sans condition, mais pour autant que de notre part, nous l'ayons demandé. Alors, le pardon de Dieu, bien sûr, il a trois facettes. La première facette, c'est de demander pardon à Dieu. C'est de recevoir le pardon de Dieu. C'est le pardon que Dieu nous accorde. La deuxième facette, c'est le pardon que nous donnons aux autres. Et la troisième facette, c'est se pardonner à soi-même. C'est des choses différentes, croyez-moi. Car on peut avoir été pardonné par Dieu et sentir toujours ce sentiment de culpabilité qui nous écrase. C'est pas normal. Il y a d'ailleurs des versets de la Bible qui en parlent. Le pardon de Dieu, à l'exemple de David au psaume 32, c'est lorsqu'il a confessé son péché. C'est lorsqu'il a reconnu son iniquité. Il a été pardonné entièrement. Non pas des conséquences, parce que les conséquences de son péché l'ont suivi longtemps. Et sachons bien que les conséquences des péchés que nous commettons, même en tant que chrétiens, nous poursuivent quelquefois des années et des années. Nous devons subir les conséquences. Mais nous sommes pardonnés. Le pardon aux autres, en Matthieu 18, 21, il nous parle là également de ce pardon que nous devons donner aux autres. 18, 21, c'est un passage bien connu, parlant de son frère, où il nous a dit « Alors Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Et quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents, une somme absolument inouïe. impensable, cette somme d'aujourd'hui, pour aujourd'hui, dans la monnaie d'aujourd'hui. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait à payer, pour payer sa dette. Le serviteur se jeta aux pieds de son maître, se prosterna devant lui et dit « Prends patience envers moi et je te payerai tout ». Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra l'un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers, une toute petite somme par rapport à ses 10 000 talents. Il le saisit et lui serra la gorge en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à ses pieds et l'implora en disant « Prends patience envers moi et je te payerai ». Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Nous devons toujours pardonner, chers amis, parce que cela libère le cœur. Cet homme qui devait autant d'argent reçut le pardon de tous ses péchés. Et cela fait penser à chacun d'entre nous. Nous qui sommes dans cette salle et qui entendons ce message du pardon, nous devons savoir que le Seigneur nous donne cette grâce immense. Nous l'avons chanté tout à l'heure, la grâce de Dieu que nous ne méritons pas, mais que nous recevons, pour autant que nous lui confessions, nous confessions nos fautes, que nous les reconnaissions surtout. Les reconnaître, c'est pas facile. Reconnaître sa culpabilité, c'est pas facile. Il faut savoir s'humilier, il faut savoir le reconnaître. Un troisième volet, c'est le pardon à moi-même, apprendre à me pardonner. Et j'ai un texte dans la Bible également, dans Ésaïe 43, verset 25, qui en parle très clairement. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions, moi pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ce verset nous rappelle que nous avons une assurance que lorsque nous avons confessé nos péchés, nous n'avons même plus le droit de nous en rappeler. Pourquoi ? Parce que précisément, ces péchés ont été effacés de la mémoire de Dieu. Il a effacé nos péchés, nos transgressions, tout ce que nous avons pu faire autrefois, quelle que soit la vilaineté, la laideur de nos crimes. Quand je dis des crimes, évidemment, ce sont tous les péchés qui représentent pour Dieu quelque chose de vraiment triste. Dieu ne peut pas supporter l'homme et le voir avec son péché. Nous sommes donc l'objet de son pardon et il oublie nos fautes, il oublie nos péchés. Mais c'est extraordinaire de savoir que Dieu nous donne ainsi non seulement le pardon, mais en plus de ça qu'il ne se souvient plus du mal que nous avons fait. Nous n'avons même plus le droit de le rappeler, de nous en souvenir. Il faut l'effacer. Il ne faut plus rester avec un sentiment de culpabilité lorsque nos péchés ont été pardonnés. C'est important cela. Dieu nous accorde ainsi au travers de sa grâce le secours dont nous avons besoin. Un témoignage qui nous a été donné, que j'ai entendu il y a bien des années, par une sœur, c'est un livre que j'ai lu plus exactement, mais j'ai vu le film également à l'époque, c'est dans les années 70 je crois. Vous avez entendu parler de Corrie ten Boom. Et elle a écrit un livre qui est absolument poignant, qui fait part de son expérience à Ravensbrück. Le titre de son livre, c'est « Dieu en enfer ». Ce livre est tout à fait difficile à lire, tant la souffrance apparaît là dans ce livre au travers des écrits de Corrie. Elle a été le témoin du massacre, ou je dirais du massacre de sa sœur Betsy. Elles travaillaient toutes les deux ensemble dans un chantier, sans doute. Et là, le garde allemand, à un moment donné, parce que la sœur Betsy, sa sœur, donc, ne pouvait plus assumer son travail tellement elle était faible, appauvrie par le manque de nourriture, cet homme a tué sa sœur à coups de crosse. Elle a vu ça, elle était à côté. L'histoire ne s'arrête pas là. À la libération, elle a échappé, bien sûr, à la mort, au gazage. Sa sœur, bien sûr, est restée là-bas. Elle a commencé à faire des tournées de témoignages un petit peu partout dans le monde. Et je ne me souviens plus si c'était en Suède, en Norvège, je ne me souviens plus exactement où c'était. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, elle s'est trouvée face à... Elle était dans une assemblée et son propos ce jour-là, et c'est ça qui est étonnant, elle avait parlé sur 1 Corinthiens 13, sur l'amour, l'amour qui supporte tout. Et à un moment donné, dans la salle, à la fin de la réunion, après avoir fait un appel, sans doute, après avoir prié pour les personnes qui étaient là, un homme s'est avancé devant elle, un homme qui avait une gabardine et qui ressemblait à cet homme, donc elle l'a reconnu. Elle a reconnu cet homme qui avait tué sa sœur. Et il venait demander pardon. Imaginons la situation et la scène. Elle a assisté au massacre de sa sœur. Elle a vu ce soldat allemand là, tué à coups de crosse. Et puis, quelques années après, ce même homme dont le visage lui était resté marqué, elle l'a rencontré dans cette église et ce fut pour elle une épreuve terrible. Elle qui venait de prêcher sur l'amour inconditionnel de Dieu, elle avait devant elle cet homme qui avait tué sa sœur. Elle aurait pu lui sauter au visage, elle aurait pu lui cracher dessus, elle aurait pu le chasser hors de l'église. Alors il lui a tendu la main. Elle a hésité quelque temps. Elle ne savait pas ce qu'elle devait faire. Elle avait un combat terrible en elle. Que puis-je faire devant cette situation? Et puis finalement, elle lui a tendu la main. Et puis finalement, ils se sont embrassés. Ils se sont fait la collade. Elle a pardonné de tout son cœur à cet homme. C'est un témoignage qui est donné comme pour nous prouver à quel point le pardon peut être donné même dans les situations les plus graves. Nous avons entendu ces derniers temps avec ce qui s'est passé en Irak, avec les persécutions des chrétiens, nous avons entendu des mamans, des papas qui pardonnaient à ceux qui les avaient fait, qui avaient fait mourir leurs propres enfants. On a entendu des témoignages qui étaient époustouflants, étaient tellement poignants de la grâce miséricordieuse de Dieu qui agissait dans le cœur de ces personnes dans des moments où tout pour eux était... C'était la désolation, ils avaient perdu leur enfant et ils se trouvaient devant des personnes comme ça qui méritaient la mort, qui méritaient vraiment d'être rejetées. Mais non, le pardon leur a été donné. J'ai toujours été touché par ces témoignages aussi émouvants que d'un père qui peut pardonner, une mère qui peut pardonner à son mari, des enfants qui peuvent pardonner à leurs parents. Nous ne devons jamais, chers amis, garder en nous quelque chose qui soit comme un fardeau qui nous pèse et qui nous appauvrit dans notre foi et dans notre cœur. Il y a une puissance libératrice dans le pardon. La puissance du pardon libère. Et sachons bien que si nous sommes ici dans cette salle, nous qui avons été libérés, eh bien, nous devons savoir que ce pardon que Dieu nous a donné, il veut le donner à quiconque. J'ai été réjoui de voir ses amis venir ce matin du Coffee House. C'est une œuvre, effectivement, comme Gino en parlait, c'est une œuvre qui est destinée à aller vers les plus, je dirais, non pas les plus pauvres, non pas les plus démunis, mais les plus nécessiteux de la grâce de Dieu. Ils ont tous besoin de ce pardon, de cette grâce que Dieu peut donner, peut leur accorder. Et encore aujourd'hui, il appelle les gens de Charleroi, les gens de Namur, les gens de n'importe quelle ville. Il appelle les personnes à se réconcilier avec Dieu. Voulons-nous vraiment entreprendre un combat dans la prière, nous-mêmes, chers amis, pour que l'œuvre qui a été commencée à dents promis il y a quelques années, ces hommes et ces femmes qui viennent, peut-être ne se rendant pas toujours compte de ce qu'ils vont entendre, de ce qu'ils vont recevoir, mais qui entendent une parole libératrice, guérissante, c'est un cadeau que Dieu fait dans notre région de voir des personnes qui se lèvent et qui peuvent apporter ainsi un témoignage de l'amour de Dieu. Quand je suis venu à la croix il y a maintenant plus de 60 ans, que j'ai entendu parler pour la première fois de l'amour de Dieu, de l'œuvre du Christ sur la croix, c'était des paroles tellement simples. Mais cela m'a pénétré au plus profond de moi-même. J'étais bouleversé. J'étais retourné comme une chaussette. Je suis sorti de là. J'avais donné ma vie à Jésus-Christ, sans m'en rendre compte. Vraiment. C'est seulement par après que je me suis dit, mais quelle démarche est-ce que j'ai fait? Cette démarche me procurait tellement de joie, tellement de paix, tellement de bonheur, je me sentais libre. Mais c'est exactement ce que ressentent les personnes qui aujourd'hui encore, et même chrétiens, qui ont commis des péchés graves, peuvent toujours tourner le regard vers le Seigneur qui a toujours, parce qu'il est la source inépuisable du pardon. Il donne à quiconque demande et il donne avec générosité le pardon de nos péchés à celui qui se repent sincèrement. Le tout évidemment c'est d'être sincère et c'est d'avoir en nous ce désir de pouvoir changer d'attitude envers lui, de se convertir, de devenir enfant de Dieu, parce que c'est la promesse qu'il nous fait. Alors ce matin, évidemment, j'ai eu à cœur de vous parler du pardon de Dieu, parce que j'en ai été moi-même l'heureux bénéficiaire, et la plupart d'entre vous, vous l'êtes. Et nous savons que c'est le passage obligé pour entrer dans le royaume de Dieu, être pardonné. Savoir que nous sommes destinés maintenant pour le royaume, que nous avons cette destination céleste. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous sommes des privilégiés, nous, les chrétiens. Et quelquefois, nous ne prenons pas la mesure de notre joie et de notre privilège, parce que nous nous sommes habitués un petit peu avec les bénédictions de Dieu. Oui, c'est vrai, c'est triste à dire, mais c'est un petit peu dans la nature humaine. Nous nous habituons trop facilement aux réalités célestes. Et pourtant, lorsque nous sondons les Écritures et que nous lisons de tels passages, nous nous rendons compte à quel point Dieu est grand, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qu'il nous aime tous tendrement, qui que ce soit, les petits, les grands, les faibles, les forts, de quelque origine que nous soyons, Dieu nous aime. Il ne fait de distinction avec aucun d'entre nous. Que le Seigneur vraiment bénisse ce matin cette parole et nous donne de pouvoir véritablement vivre ce que nous avons vécu. Je voudrais encore vous laisser un verset de la Bible. C'est dans Colossiens chapitre 3, verset 13. Colossiens 3, 13. Toujours concernant le pardon aux autres, où il est dit « Supportez-vous les uns les autres » Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Nous qui avons reçu le pardon de Dieu, nous devons aussi apprendre à pardonner, quelles que soient les fautes que nous ayons et quelles que soient les blessures que nous ayons subies, car les blessures dans la vie ne manquent pas. Les blessures dans la vie sont quotidiennes. Que ce soit sur le travail, que ce soit dans la famille, que ce soit avec des voisins, que ce soit dans notre couple, nous nous blessons quelquefois, peut-être même sans nous en rendre compte. Alors nous avons besoin, bien sûr, de nous pardonner. Le pardon que nous donnons aux autres est très important. Le pardon que nous recevons de Dieu, le pardon que nous donnons aux autres, et se pardonner aussi à soi-même. Apprenons à le faire, et je pense que le Seigneur vraiment nous bénira. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que ta parole est la vérité et que toutes les ordonnances de tes paroles, Seigneur mon Dieu, sont vérifiables dans la vie de chacun. Nous savons, notre Dieu, que tu ne dis pas les choses en vain, que tes paroles, Seigneur mon Dieu, que tu veilles sur elles afin de les accomplir en nous-mêmes. Mais lorsque nous te prenons au mot, lorsque nous recevons ce pardon de Dieu à laquelle nous devons tous tendre, ou en tout cas rechercher cette grâce immense, imméritée, tu nous donnes, Seigneur, aussi le secours dont nous avons besoin. Et je te prie pour tous les amis qui sont ici ce matin, quels qu'ils soient, peut-être pour la première fois étant venus dans cette église et qui ont entendu que Dieu les aime, nous l'avons chanté plusieurs fois ce matin, que Dieu pardonne aussi aux pécheurs repentants, qu'il veut changer la vie des gens, leur donner un sens à leur vie, leur donner une motivation nouvelle, leur donner une destinée. Oui, Seigneur, c'est toi qui as nos destinées entre tes mains. Et nous savons que nos destinées à nous en tant que chrétiens, c'est le royaume de Dieu. Et nous savons qu'un jour, ce sera avec toi que nous serons. Que le Seigneur nous bénisse chacun d'entre nous. Amen. Amen. Amen.